depuis le début de la pandémie. Comment se porte votre couple? Ça a l'air une question très personnelle, ça peut l'être, mais il faut savoir que les cas de divorce et de séparation depuis la crise de la COVID ont doublé. C'est pas rien. Alors, quand on parlait des médias sociaux qui sont rendus de plus en plus violents dans leurs propos, de comportements sur la route, ça se reflète à la maison aussi. Vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou si vous êtes hors de la région de Montréal, c'est 1-866-790-9850. Pour tout de suite, on va parler à Maître Annie Drapeau, qui est avocate en droit de la famille. Bonjour, Maître Drapeau.
Bonjour.
Écoutez, moi, je suis pour... je suis pas comme mes grands-parents, eux autres. Ils disaient, on devrait pas se séparer. Faut pas briser quelque chose qui est pour la vie. Bien, moi, je me dis, si on s'aime plus, oui, il faut se séparer. Si le couple n'est plus réparable, on trouve qu'il est plus réparable, bien, on va faire plus de dégâts à nous et nos enfants en restant dans une ambiance malsaine. Ça, c'est un côté. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est la crise qui nous dirige vers deux fois plus de séparation. Donc, c'est en lien direct, d'après moi, avec le stress qui est causé par la COVID.
Oui. Écoutez, évidemment que je ne maintiens pas de statistiques dans mon travail. En fait, on dit que...
Mais vous avez plus de clients, on s'entend, là.
Ah oui, effectivement. Et comme vous dites, bon, les choses ont bien changé depuis l'époque de nos grands-parents. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que j'ai pas la réponse exacte de dire c'est 1 plus 1 égale 2. On est dans une crise de pandémie et automatiquement là, le lien est direct là, sur les divorces. Par contre, je le constate. Je le constate qu'on a une demande.
On est obligé un peu de faire le lien. Le hasard serait quand même assez extraordinaire que ça tombe droit là.
Effectivement. Et généralement, les problématiques dans nos cas de séparation, c'est les deux principales raisons sont, en fait, premièrement, les enfants. C'est vraiment à ce niveau-là que le conflit se crée et ce qui amène souvent à la séparation. Et l'autre volet, c'est le volet financier. Et là, avec la pandémie, avec le confinement, ce qu'on sait, c'est que les parents ont été avec les enfants à temps plein et souvent même avec le conjoint, le mari, le conjoint-conjointe. Donc, cette réalité-là que les enfants peuvent être une source de conflit dans un couple, cette réalité-là, elle a été multipliée, ça a été exponentiel en ayant les enfants avec soi 24 heures sur 24. Donc, les probabilités de conflits ont été augmentées et c'est ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de séparation. Et je vous dirais, pas simplement plus de séparation, mais plus de conflits au niveau des couples. Des couples qui étaient déjà séparés, qui généralement s'entendaient quand même très bien sur les modalités de garde. Et là, on a eu des questions, les parents ont eu des questions à se poser, comme par exemple, quand on a eu le retour, l'ouverture des garderies. Est-ce que j'envoie mon enfant à la garderie ou non? Un parent était d'accord, l'autre ne l'était pas. Donc, cette pandémie-là a amené aussi des nouvelles questions pour les parents qui nous ont amené une augmentation aussi là, de travail à ce niveau-là.
L'argent doit aussi compter pour beaucoup. La PCU, pour l'instant, ça tient, mais ça va finir à un moment donné, là.
Exactement. Et c'est pour ça que je parlais hier avec un autre journaliste et on parlait possiblement d'une deuxième vague de séparation parce que effectivement le volet financier est une source de conflit importante dans les couples. Et là, présentement, les gens ont un support gouvernemental, mais ça achève. Donc, qu'est-ce qui va se passer là, une fois là la PCU se termine? Il y a l'assurance emploi qui prend la relève, mais pour un certain temps. Les entreprises ont eu de l'aide gouvernementale, mais ces prêts-là qui ont été octroyés par le gouvernement vont devoir ultimement être remboursés. Alors, on va avoir un autre sujet potentiel de conflit qui va être présent dans beaucoup plus de couples. Et c'est ce qui amène souvent, malheureusement, à des séparations. Et les réajustements de pension alimentaire aussi, parce que, vous savez, il y a souvent un parent qui va verser une pension alimentaire à l'autre parent au bénéfice de l'enfant.
Parce qu'il faisait plus de revenus que son conjoint ou sa conjointe. Mais là, s'il n'y a plus de CPU, ça va changer. Donc, il va demander réajustement.
Exactement. Donc, on a eu là, vraiment une vague de demandes à ce niveau-là.
Le confinement me questionne beaucoup parce que moi, je me rappelle dans le temps, quand j'étais avec la mère de mon fils et je n'avais pas encore remonté le taux de sang dans mon alcool. À un moment donné, ben, on était un peu sous tension à la maison, puis moi, je déteste me chicaner. Fait que je dis, bon, on va prendre de l'air. Puis là, ma blonde me répondait, il y en a de l'air ici. Ben, je dis, moi, j'aime ça prendre de la bière avec mon air. Fait que, ouais. Mais finalement, on partait à rire, puis je restais là. Mais on pouvait prendre cette distance-là si on voulait. Quand on n'en pouvait plus, des fois, tu n'es plus capable de t'entendre. Va respirer ailleurs un petit peu. Prends une bière avec ton air si tu veux. Ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir. Mais après ça, quand tu es calmé, tu réfléchis mieux. Et là, quand on est calmé, on essaie de s'entendre. Alors que quand on est fâché, on essaie de se pogner. Est-ce que le confinement a beaucoup joué là-dessus?
Ah oui. Écoutez, je suis pas une experte là, dans ce domaine-là, mais je suis persuadée que oui, parce que souvent aussi, ce qu'on voit dans notre dossier, il y a le volet légal, il y a les questions de droit, mais souvent, c'est beaucoup une question d'attitude entre les parents. On parle de coparentalité, pardon, de parents qui ne sont plus ensemble, qui doivent gérer la situation familiale, et les parents qui sont ensemble, mais qui ne s'entendent pas toujours. Et là, justement, on n'a pas l'opportunité d'aller prendre l'air, comme vous dites. On va plus au bureau non plus. La vie sociale, c'est vraiment... C'est un petit peu comme s'il n'y avait plus d'équilibre. Il y avait plus d'équilibre parce qu'on ne peut plus ventiler, là, justement.
Alors, si on nous entasse de force, je comprends, à cause de la pandémie, mais quand même, comme résultat, si on nous en... on nous enferme de force avec quelqu'un qu'on adore, mais avec lequel on n'a aucun air, aucun endroit pour respirer seul. Tout le monde a besoin de ça, même les plus grands amoureux, amoureuses en ont besoin. On court après une catastrophe, là.
Oui, ben, à mon avis, oui. Et ce que je trouve, ce qui est dommage aussi dans des cas comme ça, pendant la pandémie, pendant le confinement, c'est que les enfants se trouvent à être exposés au conflit. Ça, c'est très néfaste.
Oui.
En fait, que les parents soient témoins, parce que peu importe l'histoire qu'il y a entre les parents, peu importe la rancune ou la quantité d'air qu'un a besoin par rapport à l'autre, l'enfant doit être protégé de ça, parce que lui, il les aime, ses parents, il a le droit de les aimer. Puis les enfants, surtout en bas âge, ils vont déterminer leur stabilité vraiment avec la relation qu'ils ont avec leurs parents. Donc, de voir maman qui pleure ou papa qui est fâché ou à l'inverse, c'est très déstabilisant pour un enfant, puis ça lui enlève ses repères. Donc,
moi, je crois qu'il y a un niveau de violence qui remonte aussi et qui touche les enfants. Le docteur Julien était très inquiet. Lui, bon, c'est le créateur de la pédiatrie sociale. Donc, lui, il est au cœur, il travaille avec les enfants qui en arrachent. Et puis, c'est certain que à partir du moment où il y a de la violence à la maison, ben lui, il veut voir ses patients, il veut voir les enfants. Ben, en confinement, il ne peut pas. Alors ça, c'est quelque chose, les enfants qui sont dans des lieux malsains comme ça, puis qui sont témoins de relations toxiques, doivent être dans une détresse épouvantable.
Oui, effectivement. Puis on le voit, moi, je suis en droit de la famille, donc on est dans des cas où bon, il y a du conflit, mais jusqu'à un certain niveau. Et les enfants sont très affectés de ces situations-là. Maintenant, quand on parle de, quand on tombe à un autre niveau, là, on tombe dans des cas de DPJ, là, où vraiment le développement de l'enfant est compromis, là, où c'est problématique. Et là, à cause de la pandémie, il y a une période où il y a des interventions qui ne pouvaient pas être faites, des suivis surtout qui ne pouvaient pas être faits. Donc, c'est triste, là.
Mais bien sûr, puis il n'y a aucune situation qui peut être exposée dans une situation de confinement. Je veux dire, même si un parent tourne en agresseur, ça existe. Hein? Majorité, mais ça existe. Un parent agresseur avec un enfant victime, ils sont pris ensemble. C'est le pire film d'horreur qu'on peut imaginer pour un enfant.
Pour les enfants.
Et si la DPJ ne sait pas parce que tout le monde est confiné, qu'est-ce que vous voulez faire?
Et voilà, puis là, c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est certain que moi, je ne pratique plus en DPJ présentement, donc je ne vois pas, je les vois quand même parce que j'ai des collègues de travail autour de moi, mais je vois l'impact qu'on a dans des familles où je vous dirais qu'il y a quand même un bon fonctionnement de base et il y a un impact quand même important sur les enfants qui ont été pris dans ce cercle-là. Donc, c'est certain qu'en DPJ, là, c'est comme vous dites, c'est l'horreur.
Oui, puis même si on ne parle pas de DPJ, dans vos dossiers de séparation, vous voyez bien que les enfants sont dans le dossier, dans vos dossiers aussi, que vous devez plaider en cas de séparation.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui.
Donc, vous les voyez passer. Vous voyez un paquet de situations qui ne sont pas faciles, là.
Effectivement. Puis souvent, on est obligé, on fait des demandes d'expertise psychosociale pour avoir un expert, soit un psychologue ou un travailleur social qui va rencontrer les parents, qui va rencontrer l'enfant aussi pour vraiment essayer d'avoir une historique de la situation familiale, d'avoir un portrait complet et un portrait selon la perception de chacun, hein? Parce que tout n'est pas nécessairement noir ou blanc. Souvent, un va dire noir, l'autre va dire blanc, mais finalement, on se rend compte que c'est une question de perception, une question d'émotion. Les gens, ils ont de la difficulté à avoir du recul envers leurs émotions, donc ils perçoivent les choses autrement que l'autre parent, donc c'est là où on a vraiment un conflit. Alors nous, souvent, on fait des demandes à la Cour pour qu'il y ait des ordonnances, comme je disais, des expertises psychosociales qui soient rendues pour éclairer les avocats et le tribunal. Parce que même si on travaille en droit familial et qu'il y a un volet psychologique qui est très présent, on n'a pas ces compétences-là, on n'est pas des psychologues. Puis on voit de la détresse, on voit des enfants qui ont des problèmes, mais on n'est pas capable, nous, de dire, ben,
comment l'interpréter?
La raison du problème et la solution. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a des experts qui sont fournis par la Cour supérieure, justement, pour venir nous aider et émettre des recommandations pour pouvoir orienter le juge et les avocats dans la bonne prise de décision.
On va prendre un appel tout de suite. J'aimerais ça vous garder avec moi jusqu'à la fin de l'heure, si vous êtes d'accord, Maître Drapeau. Puis si vous avez envie de me couper la parole pour répondre à nos questions, ça me fait plaisir. On a Raphaël. Salut, Raphaël.
Oui, bonjour à vous, Dan. Vous allez bien?
Oui, moi, ça va très bien.
Moi, ça va très mal, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je vous appelle, pour vous raconter que 40 ans de vie commune ont éclaté. Sont envolés, sont en train de s'envoler et je veux pas entendre le désolé pour vous, là, c'est une réalité, c'est là. Pourquoi? Puis la COVID, c'est facile de lui mettre tout sur le dos à la COVID. La COVID, là, est pas responsable de tout. Ça a été simplement un vecteur. T'sais, si je fais une analogie là, avec la COVID, puis vous la comprendrez, c'est un peu comme le gars qui a une schizo, là, latente en lui, puis qui s'en va prendre de la dope sur la rue, puis que, bah, pouf, ça déclenche, ça vient de s'éteindre, puis salut. Alors la COVID, elle, a été un vecteur. Quand t'es 24 heures sur 24, ensemble, dans une maison pendant 3 mois confinés, puis que t'es habitué mutuellement de partir 10 heures par jour de chacun de son côté, d'aller rencontrer des gens, travailler, des collègues, régler des cas, vivre des choses plaisantes, d'autres moins plaisantes, mais on les vit, puis qu'on revient, puis qu'on a des choses à se dire, des choses nouvelles. On a nos petits secrets qu'on garde, nos petits trucs à se dire, mais quand t'es 24 sur 24 pendant 3 mois, t'as plus rien à te dire. Tu viens qu'à un moment donné, puis moi aussi, je me suis fait dire, il y a de l'air ici. Je me suis fait dire celle-là aussi. Moi, j'ai répondu, mais elle est viciée présentement, par nous deux. Puis, il n'était pas question de sortir, parce que tu ne peux pas aller dans les bars pendant ces 3 mois-là, tout était fermé. Mm-hmm. Aller prendre une bière sur le bord de l'eau, là, ou dans les parcs, là. Bon, encore là, la police t'a demandé ce que tu fais là. Mm-hmm. Alors, le problème, c'est, tu es 24 sur 24, tu vis certaines tensions. Tu ouvres la télé, c'est le COVID. Tu écoutes la radio, c'est le COVID. Tu lis le journal, c'est le COVID. C'est le COVID partout. Ça devient pesant. Et on se dit des mots. Et des fois, les mots dépassent notre pensée. Et ces mots-là, on laisse des traces, font mal. On s'accroche. On est plus irritable. On est plus tendu, plus fatigué. On a peur. Alors, tout ça, parcours à faire.
C'est tout le monde aussi. M'amener. On le voit sur les médias sociaux, on le voit sur la route, on le voit partout.
Ben, c'est ça. Voilà. Oui, on le voit partout.
Parce que ce qu'on vit, ça va rester dans un livre d'histoire aussi. Il faut le savoir. On va en parler
un moment. Ça va être un beau choléra, puis le reste, ce ne sera pas quelque chose de beau. Là. Ça sera pas comme,
Donc, c'est anxiogène. Fait que ça fait déjà monter notre anxiété. Et en plus, si on est confinés ensemble, on n'a aucun moyen d'avoir une certaine paix. Les humains ont besoin d'être seuls un peu. Quand même,
oui.
Un minimum.
Oui, respirer. Tu sais, quand on dit respirer chacun de son côté. Chacun a un air différent. Quand je parlais de quitter la maison pendant 10 heures par jour de ton côté puis du mien, c'est qu'on va vivre des choses ailleurs. Là, on va vivre d'autres trucs. Là, on est ensemble 24 sur 24. Là, les accrochages arrivent, les niaisages, les choses par-dessus lesquelles pendant 40 ans t'aurais passé deviennent surdimensionnées.
Ça a brisé. Le confinement a brisé l'équilibre.
Ça a causé un déséquilibre. Oui. OK? Bon.
Rappelle ce que vous me dites, c'est parce que, oui, ça existait avant. Mais bien sûr, tous les couples. Mais c'est pas à cause de ça qu'on se sépare. On se sépare quand c'est plus possible. Mais avoir de la difficulté, se chicaner de temps en temps, tout ça, c'est à nous à mettre nos limites. Bon, moi, une relation qui se parle juste comme ça, je suis pas capable, j'arrête. L'autre dire, ben moi, je pense que c'est... Moi, au contraire, moi, je pense que c'est plus... Moi, j'avais une ex qui ferait des choses, j'étais pas capable d'endurer, puis son nouveau chum, quand elle l'a trouvé, lui, s'en foutait royalement, fait qu'elle était bien mieux avec lui qu'avec moi. Donc, tout ça est très, très, très personnel. Mais une relation de 40 ans qui vole en éclats comme ça, je comprends que c'est un vecteur et que c'était déjà en danger avant, mais vous avez, c'était sûrement pas votre premier moment où vous frottiez l'un à l'autre puis que vous vous énerviez un peu. Là, en 40 ans, vous en avez vu pas mal.
Oui, mais ça, c'est un clash. Tu sais, le clash, ce qui arrive, c'est que c'est bien évident qu'en 40 ans, on y va, qu'on devient mari. On aurait pu faire un autre 20 ans, peut-être, possiblement, puis finir ça comme il faut. Puis c'est pas, tout n'est pas nécessairement fini. Je dis, écoute, on va aller réfléchir chacun de notre côté. On ne commencera pas à parler devant de la maison, séparer bien. Nous, on est à chaud, là. On va laisser tomber un peu la chose, là. On va se refroidir mutuellement. Puis on va regarder après. L'un et l'autre, on intervient psychosocialement. On travaille. Tu sais, le cordonnier mal chaussé dans la vie. Là. Tu vas aider.
Ah, on l'est tous. Aider, parce que moi,
tu peux aider le monde entier. Tu peux aider le monde entier. Puis quand c'est toi, là.
Oui, mais cordonnier mal chaussé, moi, c'est parfaitement logique. Oui, allez-y.
Il y a deux choses dans la vie. Deux choses dont tu prends vraiment la vraie dimension, où tu reconnais la vraie valeur uniquement quand t'es père. L'amour puis la santé.
Oui, je suis d'accord.
C'est là que tu en prends la dimension. Et. Quand tu perds l'amour ou la santé ou les deux, là, tu prends vraiment la dimension de ça.
On est là. Il faut que j'aille à la pause, Raphaël. Merci. Je suis désolé, j'aurais continué, mais il y a d'autres appels. Il faut que j'aille à la pause. Je trouve ça très intéressant. Bonne journée. Puis aussi, rappelez, on parle de cordonnier mal chaussé. Moi, je pense que si tu es bien chaussé, tu ne deviens pas cordonnier. Alors, après la pause, on va avoir, je garde Maître Annie Drapeau avec nous et on va avoir José Leboeuf qui est psychothérapeute et sexologue après la pause. Alors, je vous redemande, depuis le début de la pandémie, comment se porte votre couple, parce que ça les séparations ont presque doublé depuis la pandémie. Donc là, c'est une courbe très, très rapide. Je pense qu'il faut s'en préoccuper de cette façon-là. Je vous demande comment se porte votre couple. Vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou 1-866-790-9850. Je vous rappelle qu'on est avec Maître Annie Drapeau, qui est avocate en droit de la famille. Et là, je reçois tout de suite José Leboeuf, qui est psychothérapeute et sexologue. Bonjour, Madame Leboeuf.
Bonjour, Monsieur Birga. Heureuse de vous parler ce matin.
Ben, ça me fait plaisir. Vous allez pouvoir éclairer nos lanternes un peu. Je comprends qu'avec la fermeture des écoles, avec le télétravail quand tu as des enfants, avec la CPU qui va se terminer, on n'a plus de job, ça crée une anxiété solide et l'anxiété doit sûrement se traduire par un manque de patience. Et un manque de patience, ben, à ce moment-là, c'est un manque de discussion et de négociation dans un couple.
C'est exactement ce que j'ai observé dans ma clientèle. Il y a eu une souffrance qui a été palpable depuis mars. J'ai continué à recevoir des nouveaux couples en consultation. Puis comme vous l'avez dit, toutes les situations qui génèrent du stress, de la peur, de la déprime, de l'inquiétude, en fait, tout ce qui nous sort de notre zone de confort puis nos repères habituels, ça vient déjà augmenter ce qui était déjà fragile à l'intérieur des couples.
Mm-hmm.
Et ça a été observable assez facilement. Là, cette souffrance-là, elle était bien là. Les couples qui étaient déjà éloignés, qui étaient déjà un peu distancés, puis je parle pas de la distanciation. Là,
un peu fragile, on peut dire.
Ceux qui étaient déjà un peu éloignés, ils ne pouvaient plus fuir cette réalité-là, étant, comme vous dites, confinés à la maison en télétravail 24 heures sur 24. On part plus là 8 heures par jour pour voir d'autres mondes, pour faire autre chose, pour se changer des idées. On est toujours là. Donc, tout ce qui allait pas bien a été multiplié, a été exacerbé et ça a été lourd.
Oui, on se rend pas compte de la différence de vie parce que dans notre relation amoureuse, on l'a toujours connue en travaillant. Donc, exact. On avait au moins un break de 8-9 heures par jour. Notre conjoint
aussi. Et des choses
aussi.
À se raconter. Tu sais, des
et après
choses
ça,
à se raconter.
Oui, on ramène des histoires alors que là, on n'a plus rien et on n'a pas d'air. Et ça doit être terrible de se sentir enfermé, mais en étant amoureux aussi, on peut être enfermé dans une relation où on est amoureux. Parce que être amoureux, c'est pas suffisant. Il faut que ça fonctionne aussi.
Exact. C'est vraiment bien dit. Tout à fait. Ça, c'est certain. Je l'ai vu, ça aussi, des gens qui justement se disaient, on, tu sais, on s'aime, on pensait pas se séparer ou on pense pas se séparer, mais on voit en l'autre, quand on est confiné ensemble tout le temps, on voit en l'autre des aspects d'elle ou de lui qui nous font pas plaisir. Et on n'a pas le choix de s'y confronter. Moi, je suis sexologue aussi, comme vous l'avez mentionné là en présentation, puis on s'entend que toutes ces émotions-là difficiles, puis le confinement, puis le stress, il n'y a rien là-dedans pour booster la libido non plus. Hein. On
s'entend ça fait que pas une vie sexuelle très, très excitante et très,
pour beaucoup
très
de gens
saine.
Exact. Je dis pas que ça n'a pas été positif là au niveau du sexuel pour certains. Il y a toujours des exceptions à toutes les règles. Et ça, je l'ai compris il y a très longtemps dans ma carrière. Mais disons que je prends les gens qui m'ont consulté. C'est sûr que si déjà il y avait des problématiques au niveau de des rapprochements, du désir sexuel, ben il n'y avait rien dans la pandémie pour venir aider tout ça là. Donc ça a été encore une fois amplifié, exacerbé. Puis on a dû regarder ces enjeux-là. On dit souvent en sexo que le désir a besoin d'une certaine distance. Le désir a besoin d'air. Donc, quand on a l'autre en pleine face, en bon québécois, 24 heures sur 24, on le désire un peu moins.
Ben oui, il n'y a pas d'air.
C'est ça, il n'y a pas d'air. Fait qu'on suffoque littéralement. Fait que ça, je l'ai vraiment bien perçu. Là, toutes ces situations-là, je les ai vues dans
mon corps. Si je peux me permettre d'intervenir.
Oui, Maître Drapeau.
En fait, c'est que je trouve ça très intéressant ce que j'entends parce que je constate exactement la même chose, mais dans un autre travail, dans le sens que ce que j'entends, c'est que on parle de couple où la situation était déjà fragile. Puis le monsieur qui dont j'oublie le nom, là, qui a téléphoné tout à l'heure, mentionnait
Raphaël.
Donc, il y a, oui, le COVID, mais le COVID n'est pas non plus l'unique réponse à tout. En ce sens que les couples que je vois qui se séparent, la majorité, là, je dirais, là, 95% là, des séparations que je dois là, gérer là, dans mon bureau, tous me disent la même chose. Ça fait longtemps que ça ne fonctionnait plus, mais on ne le voyait pas.
Le COVID a servi de vecteur, comme disait M. Raphaël. Et non seulement mais on s'aperçoit aussi que dans toute la société, même en politique, même dans notre système de santé, la COVID a servi de révélateur à beaucoup de choses qu'on ne voyait pas avant. Donc ça aussi, ça peut faire partie. Mais je veux dire, tous les couples réagissent de façon différente. Y en a peut-être certains qui se déroulent mieux. Là, je vous garde toutes les deux. Là, à chaque fois qu'on on voit un invité, vous pouvez répondre quand vous voulez. On a Julien au bout de la ligne. Salut Julien.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien, toi?
Excellent, oui, ça va bien, merci.
Et je pense que tu recules parce que j'entends...
Non, c'est bon. C'est...
OK. Ça t'apporte.
Excuse-moi pour ça.
Pas de trop.
Non, nous autres, écoute, en fait, de famille, j'ai deux ados. Donc, peut-être par rapport à d'autres gens, ça a rendu les choses un petit peu plus faciles parce que des ados, ça s'occupe un peu plus par eux-mêmes. Ça a une blonde, ça a un PlayStation, ça a leur iPhone. Mais on trouvait ça important quand même. T'sais, on essaie de contrôler ça quand même, mais faut quand même avoir du temps à nous quand on est empilé un ses autres de même. Puis c'est ce qu'on essayait de se laisser. Ma femme qui prenait son livre puis qui lisait à l'infini, que je disais. Moi, j'avais mon garage, puis je pouvais aller dans mon garage à l'infini. Les enfants pouvaient faire leurs petites affaires quand c'était le temps de faire leurs petites affaires, mais quand c'était le temps de faire des choses en famille, on faisait des affaires en famille. Mais ultimement, là, j'ai adoré ce moment-là en famille, moi, parce que j'avais un de mes enfants qui était en résidence au cégep, puis il revenait à la maison, ça faisait quand même plusieurs mois qu'il n'était pas à la maison. Fait que ça a été comme vraiment cool de pouvoir passer tout ce temps-là ensemble.
Ouais, fait que dans votre cas, il y a eu des retrouvailles, c'est ça?
Ouais, un peu, oui, si tu veux. On le voyait quand même à tous les fins de semaine, mais je veux dire, l'avoir à temps plein à la maison, oui. Être les quatre à la maison en même temps, c'était quelque chose qui était pas possible tout le temps. Puis on a vraiment, vraiment apprécié ça des deux côtés. Puis comme je te dis, je pense que c'est important de se laisser du temps aussi. Tu sais, ma femme, elle a certaines affaires qu'elle aime faire que moi, c'est pas dans ma palette, ben qu'elle les fasse. Puis moi, je vais faire d'autres choses en attendant. Puis c'est pas comme aller travailler, mais au moins tu fais d'autres choses. Puis en fin de journée, ben tu peux te retrouver puis jaser de ça ou pas jaser pantoute, puis écouter une série télé. Puis fait que c'était une gestion quand même relativement facile pour nous. Ce confinement-là, ça a été 3 mois complets pour moi. Ma femme est enseignante, donc elle n'est toujours pas retournée travailler. Mais écoute, Pas facile, mais facile en même temps, puis plaisant aussi.
Ben, je trouve ça fantastique, c'est encourageant. Vous avez le titre de rayon de soleil de la journée, j'en donne tout le temps quelque part. Merci beaucoup, Julien. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Mme Leboeuf? Est-ce que, par exemple, le garage est un instrument magique dans ce cas-là? Parce que s'ils ont chacun leur pièce où ils peuvent s'isoler un peu, il y a déjà quelque chose de mieux. Et c'est un couple qui avait l'air assez solide au départ.
C'est ce que j'ai beaucoup aimé quand il parlait de s'aménager du temps pour soi, puis j'ajouterais peut-être du temps en couple aussi, dans la mesure où c'est possible, parce qu'en même temps, je l'entendais parler de garage, je l'entendais parler, puis autant il y a des gens qui ont des maisons, deux étages, un sous-sol.
Il y en a qui sont dans un 3,5, là.
Il y en a qui étaient 6 dans un 4,5. Là. Je veux dire, c'est pas la même réalité. Ils n'ont pas de cours, ils ont un mini-balcon. Ça n'a pas été la même réalité pour tout le monde. Mais moi, ce que j'ai demandé à mes clients de regarder, puis qui eux-mêmes, des fois, m'amenaient comme outil qu'eux-mêmes avaient trouvé, c'est se refaire une nouvelle routine, se refaire des nouveaux repères. Quand ça venait d'arriver à la mi-mars, les gens au début, puis je m'inclus là-dedans là, par rapport à mon travail, on se disait, bon, ça va passer là, une couple de semaines, un mois, puis on s'installe le pseudo confortable à la maison pour faire le télétravail. Puis là, à un moment donné, on a compris que ça n'allait pas finir tout ça en deux semaines, là, puis il fallait s'installer. Mm-hmm. Là. Et là, de se créer des nouveaux repères, se créer une nouvelle installation, s'aménager du temps, créer des espaces autrement dans la maison pour être capable de s'isoler un petit peu quand on en avait assez pour éviter les conflits, ça a été salutaire. Il fallait faire ça.
Darwin disait que les espèces qui ont survécu, c'est pas les plus fortes ni les plus intelligentes.
Les plus adaptables.
Oui, ceux qui se sont adaptés. Puis d'après moi, ça va être la même chose pour les couples. Les couples qui vont s'adapter vont réussir à se trouver quelque chose là-dedans. Et des côtés positifs, ça peut exister. On l'a vu, je dis pas que c'est la majorité, mais on l'a vu. On va en reparler tout de suite après la pause. Je vous signale que Maître Annie Drapeau est toujours avec nous et José Leboeuf. On vient après la pause. Je l'ai dit et je vais le répéter plusieurs fois. Je vois la montée du ton et de la violence verbale sur les médias sociaux. Je vois la façon dont plusieurs personnes se comportent sur la route, sont pleins de rage. On le sent. Et ça, cette rage-là, ça vient pas de nulle part. Ça vient de l'anxiété qu'on ressent avec la COVID. Puis maintenant, on se demande où se réfugier pour éviter ça. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on se réfugie chez nous, dans notre couple. Mais là, si c'est le couple qui est problématique, on se demande quelle porte de sortie il nous reste. On va prendre un premier appel tout de suite. Pierre. Salut, Pierre.
Hey, bonjour, Dan, si je peux t'appeler Dan.
Absolument.
Ça fait un bout de temps que j'attends sur la ligne, que j'ai écouté pas mal de témoignages de plusieurs personnes, puis je vais modifier un peu le commentaire que j'ai à vous donner.
Oui.
Moi, je me suis séparé il y a 2 ans et demi, puis j'ai officiellement divorcé depuis le mois de janvier, puis j'ai passé la période de confinement assez seul, sans vraiment avoir mes enfants, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont partagé leur détresse, ça va pas bien avec mon couple, c'est donc difficile, etc. Puis, il y a un conseil que je peux donner, c'est que dans la vie, l'équilibre est difficile à atteindre. Puis, on va se le dire, c'est pas facile. Puis, trouver quelqu'un pour partager sa vie, tu vas pas trouver le morceau de casse-tête qui va fitter exactement. C'est des compromis, puis je pense qu'en ce moment... Là,
c'est une découverte aussi, parce que de penser qu'il y a une femme de fait pour nous, c'est assez égoïste, là. Est-ce que nous, on est fait pour quelqu'un aussi?
Effectivement.
Alors donc, on veut chercher... ça, il faut partir à la découverte, puis se dire à un moment donné, elle, je veux plus qu'elle s'en aille, je voudrais qu'on reste ensemble, puis là, on en discute.
Oui, puis je trouve que c'est tellement beau que quand... Il y a des couples qui vont se séparer, qui devaient se séparer. Mais on voit le pourcentage d'augmentation de séparation. Puis moi, je conseille aux gens, puis je le conseille même aux professionnels qui sont à l'écoute. Vous êtes professionnels, vous êtes capables de les voir, ceux-là. Donnez-leur le bénéfice du doute de prendre leur temps. On n'est pas dans une période normale. Notre équilibre a été brassé. On ne peut plus aller où nos petits plaisirs quotidiens qu'on sortait exactement parce que le gazon ne sera pas plus vert ailleurs dans 1 an, dans 2 ans, surtout quand tu approches la 50aine. Puis je pense que ça vaut la peine de prendre un grand respire, d'aller coucher dans la cave pendant 6 mois, de garder le respect. Puis sais-tu quoi? Ça va revenir le beau temps. Puis ça se peut que tu te dises, mon Dieu, que j'ai donc bien fait de ne pas tout éclater. J'entendais le monsieur de 40 ans tantôt, j'en reviens pas, tu sais. Puis moi, je dis, il y a beaucoup de gens que je parle, qui se sont séparés il y a plusieurs années, qui me disent, ah, 5 ans plus tard, ils se disent, mon Dieu, j'ai tout scrappé ça, j'ai tout fait ça, puis mon Dieu, que j'étais quand même bien. Mais là, ils font face à la vie puis sont heureux. Fait que moi, je dis aux gens, là, prenez un grand respire. On ne vit pas quelque chose de normal. Assez de voir le beau là-dedans. Allez prendre des marches, allez faire une ride de vélo, allez coucher dans la cave, c'est réécouter aussi la petite vie, je ne sais pas, là, mais dans un an ou deux, vous allez peut-être...
Je comprends, mais justement, COVID, c'est ça le gros problème, c'est d'aller prendre de l'air, il n'y en a pas tout le temps, c'est pas tout le monde qui a une cave aussi. Mais je comprends ce que tu veux dire, prendre une distance, tu sais, on appelle ça de l'air, mais dans le fond, ce qu'on veut prendre, c'est de la distance, la paix de l'autre, pouvoir l'oublier un peu, pour avoir envie de la revoir quand on revient, puis elle, la même chose. Ça, je comprends ça très bien. Madame Leboeuf, qu'est-ce que vous dites de ça?
Ben, en fait, ça me fait réagir, c'est sûr, parce que moi, je dirais que c'est sûr que moi, étant donné que je fais de la psychothérapie de couple, les gens qui viennent me consulter viennent parce qu'ils veulent pas se séparer, ils veulent pas en arriver là. Des fois, c'est leur dernière chance qu'ils se donnent. Mais les gens qui ont vécu la pandémie en se disant, ça y est, je me sépare, c'est pas dans mon bureau qui se retrouve, c'est dans des bureaux de médiateurs familiaux, d'avocats. Donc, dans mon bureau, moi, c'est les gens qui veulent essayer de repatcher les choses. Donc, oui, effectivement, puis je l'ai vu, il y a eu des gens qui se sont dit, écoute, on n'a pas le choix, là, il faut qu'on passe 24 heures sur 24 ensemble, aussi bien essayer de faire ça autrement. Aussi bien essayer de s'endurer, s'il le faut, on commence par ça, puis voir s'il n'y aurait pas d'autres manières d'interagir pour améliorer notre relation. Puis ça, COVID ou pas, c'est jamais perdu, hein. Travailler sur soi puis travailler sur ses relations, ça va toujours être avec nous. C'est des outils qu'on acquiert puis qu'on perd pas, même au-delà de la pandémie, là. Donc oui, effectivement, il y en a qui l'ont pris, ce respire-là, comme il dit, puis que tu sais qui ont essayé de faire les choses autrement. Cela dit, les gens sont pas tous à la même place au même moment. Il y en a qui devaient se séparer, qu'ils l'ont fait et ça sera bénéfique pour eux. Tu sais, c'est difficile de juger de façon générale l'ensemble d'une population en disant...
Par exemple, on peut constater que depuis l'épidémie de COVID et depuis le confinement, les demandes de séparation ont doublé.
Ont augmenté.
Augmenté, pas juste un peu. Alors là, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous empêche de régler nos trucs qu'on arrive à régler habituellement. Probablement à cause de l'anxiété, on prend tout plus dur, et aussi à cause du manque de place, du fait que quand on était confiné, on peut pas aller prendre ce qu'on appelle magiquement notre air. Là. C'est vrai qu'il y a de l'air à la maison aussi, mais c'est pas le même.
Et en même temps, tu sais, les clients que j'ai et que mes collègues ont, c'est quand même c'est des gens qui ont les moyens d'aller consulter aussi, il faut le dire. Là, il y a des gens qui auraient peut-être pu bénéficier de services de psychothérapie, mais qui n'ont pas les moyens financiers ou les ressources pour accéder à ces services-là. Donc, c'est sûr que ça biaise aussi notre clientèle. Elle ne veut pas le regard qu'on porte sur les gens avec qui on travaille. Il est biaisé parce que c'est des gens qui peuvent se permettre aussi ces services-là. Il y a de l'aide à tarif réduit ou gratuite, un peu, mais avec des listes d'attente. Et en pleine pandémie, quand c'est urgent maintenant,
tu ne peux pas mettre tant d'attente à côté d'une urgence, c'est impossible. Et puis là, ben là, on va revenir à tout système, parce que ça, c'est un problème de santé sociale rendu là. Et puis, je crois que ça devrait être à la même disposition de tout le monde, argent ou pas. Là, on vit les mêmes problèmes. Parce que ce qu'on ne règle pas dans votre bureau, on va le régler dans le bureau de Maître Drapeau, n'est-ce pas, Maître Drapeau?
Oui, en fait, c'est ça. C'est que je voulais préciser également, une fois que les gens, là, quand les gens appellent, là, qu'ils veulent nous rencontrer, là, parce qu'ils ont déjà fait ce cheminement-là. Ils ont déjà essayé, réessayé. Il y en a qui ont fait des thérapies de couple. Il y en a beaucoup aussi qui sont allés en médiation. Ça, c'est très fréquent. Qui sont allés en médiation. Le médiateur, lui, qui est une personne neutre, qui va essayer de trouver une entente, de conclure une entente entre les parties pour éviter justement de tomber là d'alimenter encore plus le conflit finalement. Mais quand les gens viennent me voir, là, puis vous savez, c'est long les procédures aussi, même si en droit familial, on peut quand même être très efficace là, parce qu'on parle d'êtres humains, là, d'enfants, donc nos délais sont plus courts avec la cour. Bref, c'est quand même long. On a des familles qui ne vivent pas bien cette situation-là. Et c'est dispendieux également, on ne se le cachera pas, là, on parlait de coûts. Donc, quand quelqu'un appelle pour aller voir un avocat, il sait que ça va le perturber, il sait que ça va lui coûter cher, il sait qu'il va avoir quand même certains délais Donc, ils sont décidés. Ils sont décidés. Moi, le monde, ils viennent me voir et ils me disent « Annie, là, je suis plus capable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, j'ai tout essayé, mais là, je suis prête. Il faut qu'on règle ça. Il faut que je fasse une demande de divorce. »
Il y a une espèce d'illusion d'optique de certains qui sont tellement fâchés après leur conjoint, conjointe, qui s'attendent à ce que le juge dise « ben l'autre n'est pas fin ». Alors qu'un juge ne fait jamais ça. Un juge va simplement régler la séparation. Vous n'êtes pas capable de vous entendre sur des modalités de séparation. Voici, je vous les impose. C'est ce que fait un juge. Il va pas prendre parti comme ça en disant « Madame ou monsieur sont pas fins, ça n'existe pas ». Donc, on ne met pas fin à une guerre comme ça. Sauf que plus on traîne ça, plus le couple qui avait peut-être une jolie maison ensemble va se ramasser que leur maison va être un bureau d'avocat, puis les autres, il ne restera plus grand-chose à la fin. Parce que c'est des... parce plus tu es enragé, plus tu fais durer le conflit.
Oui, puis en fait, c'est des dossiers comme ça où on parle de conflit de séparation. Et là, l'enfant est exposé à ce qu'on appelle un conflit de séparation, un conflit de loyauté, parce qu'il est pris entre papa et maman. Et les juges, là, en fait, parce que souvent les gens vont dire, bon, on ira pas voir un avocat, ça va causer plus de chicanes que le contraire. Mais non, il faut savoir qu'en 2020, là, nous, notre travail comme avocat, là, on travaille pour l'enfant. Fait que les chicanes, oui, là, de couple, nous, c'est la première chose qu'on dit, puis on fait un travail avec nos clients de leur dire, écoutez, là, peu importe là, ce qui s'est passé entre vous deux, là, vous allez faire la part des choses. Votre relation avec monsieur ou madame, c'est une chose. Maintenant, la relation avec l'enfant, en fait, la seule question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quoi la meilleure solution dans l'intérêt de votre enfant? Et les juges détestent ça, je vous le dis, là, par expérience, quand on est en cours, puis qu'il y a un avocat qui essaie de faire une campagne de salissage contre l'autre parent, c'est pas
ça. Il y
en
a qui sont éveillés, il y en a qui se lancent dans des fausses accusations, moi j'ai vu ça dans des causes atroces.
Absolument, puis pendant ce temps-là, le focus n'est pas du tout sur l'enfant, là, donc on ne règle rien, puis comme vous dites, ben en fait, c'est que ça... C'est ça. Au lieu d'avoir une belle maison, ben, ils ont
l'avocat. Ouais. Puis au-delà de la maison, là, moi, c'est l'enfant. Alors, la plus grande cruauté, je crois, c'est de demander à un enfant de choisir entre ses deux parents alors qu'il a besoin des deux. On va prendre une pause et on revient avec Maître Annie Drapeau, avocate en droit de la famille, et José Leboeuf, psychothérapeute, sexologue, et on va prendre des appels tout de suite après la pause. Alors, depuis le début de la pandémie, les démarches de divorce et de séparation ont littéralement doublé. Je vous demande comment se porte votre couple. Et on a, au bout de la ligne, on a Justin. Salut, Justin.
Bonjour, monsieur. Comment allez-vous?
Très bien.
J'aime bien ça t'écouter, Dan. J'aime bien ça t'écouter. T'es très pertinent, t'as des bons sujets. Bravo pour ton émission.
Ben, t'es bien fin, j'ai des bons invités, c'est le fun. D'ailleurs, mes invités qui ne se gênent pas de me couper la parole pour répondre des fois, allez-y, hein. Je vous encourage.
Bon, ben, écoute, moi, je vais être du côté serein, positif. Écoute, moi, ça fait 18 ans que je suis en couple. Et puis, en plus, je travaille avec ma femme depuis 18 ans. Fait que là, on est en business.
L'air est limité entre les deux, là.
Ouais, bien, quand tu dis limité, là, je vais te dire, écoute, là, on est dans la face d'un et l'autre 24/24. Puis plus, je dirais que dans les dernières années, tu sais, la business a grossi. Puis ça, tu sais, ça a apporté son lot de problèmes. Et puis, tu sais, là, en plus, l'inverse, la pandémie a fait que, là, on a des gros stress à cause, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Et je te dirais que... c'est la première fois de ma vie, je peux compter sur une personne. J'ai déjà été marié auparavant, tu sais, il y a eu très longtemps quand même. Et puis, mon épouse, comme on dit en anglais, she's got my back, puis moi aussi, tu sais. Autant qu'il y a des os, là, qu'on se tape sur le nerf, tu sais, je veux dire, ça, c'est garanti. Mais je veux dire, la pandémie.
Vous êtes des alliés,
moi,
c'est ça.
C'est ça, c'est ma partner, je veux dire. Et puis en plus, pour la pandémie, ce que ça a fait pour moi, c'est que ça m'a permis, premièrement, d'alléger le stress versus, il y a plein de monde que ça en a développé plus. Oui. Je dirais que, nous, on est dans l'industrie de l'événement, puis c'est sûr que, tu sais, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Et puis je te dirais que j'ai moins de stress présentement dans ma vie que j'en avais quand j'étais en business, ça roulait à fond. C'est un peu particulier. Et puis,
on a passé à travers... C'est toutes des raisons pour s'adapter, ça. C'est ce que fait l'humain.
Ah, on a passé à travers tellement de choses à travers ces années-là, de bâtir cette business-là, que je te dirais que si on avait eu à se séparer, on l'aurait fait, ça serait un bout, tu sais. Puis là, en plus, je veux dire, tu sais, le printemps, j'ai un petit peu de 2 ans et demi, écoute, ça a été un petit gars, écoute, j'ai passé du temps merveilleux avec mon enfant, je l'ai vu grandir, je l'ai vu parler de plus en plus à tous les jours, fait que pour moi, ça a été vraiment génial. Puis si je peux donner un conseil, il y a des chums à moi qui me disaient, comment tu fais pour travailler avec ta femme, puis comment tu fais ça, tu sais, je dis, écoute, toi, si comment tu vois ta femme de temps par jour, il dit, à peu près 2-3 heures, couche, dodo, manana, puis je dis, tu trouves le moyen de te chicaner avec, ben je dis, vous avez un problème. J'ai dit, tu sais, c'est tout à fait normal, moi, je dis, d'être 24 heures face à face, toi et deux, tout le temps, puis qu'on se pogne. J'ai dit, toi, si tu la vois pas, tu devrais t'ennuyer d'elle. Je pense que c'est toi qui devrais faire une remise en question.
Oui, je comprends, parce que vous deux, vous êtes formés à être presque 24 heures sur 24 si vous travaillez ensemble.
Ah oui, absolument. Écoute, je veux dire,
ce qui est un excellent entraînement, tu es capable de faire face au confinement à ce moment-là. Merci beaucoup, Justin, puis bonne chance dans ton couple, puis continue. On a Caroline. Bonjour, Caroline.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, et vous?
Oui, bien. En fait, rapidement, nous, on a trouvé ça super facile au début. Ma fille, qui a 10 ans, a toujours été très, très maman, puis on a découvert une nouvelle relation au début. On a tous été confinés, puis il y a télétravail, puis là, elle a commencé à prendre plus de temps que son père. C'était agréable. Je trouvais ça merveilleux. Évidemment, après 2-3 mois, les choses se tassent un peu, puis les gens commencent à se taper un peu plus sur les nerfs.
Ce qui est parfaitement normal, faut pas se blâmer pour ça, là.
Ben non, exactement, sauf que d'un autre côté, justement, les choses sont pas normales, puis il faut apprendre à s'adapter.
Oui.
Puis moi, ce que j'ai aimé de l'intervenante, je crois que c'est l'avocate d'avant qui disait que le bien qu'on a le plus précieux là en tant que couple, ben c'est son enfant. Je voyais que ma fille, son comportement changeait un peu, puis j'ai bien vu qu'en se regardant dans le miroir, ben ça venait de nous autres, c'était notre comportement à nous.
Mmh.
On est grand, on est adulte, on est capable de s'adapter puis de se parler, ben c'est ce que j'ai dit à mon chum qu'on devait faire, parce que c'était encore plus difficile pour elle que pour nous d'être confinée à la maison sans ses amis. Elle faisait 20 heures de gym par semaine, là elle n'en faisait plus du tout. Puis son bien-être à elle devait passer avant le nôtre, puis on devait se serrer les coudes, travailler comme une équipe, comme l'autre monsieur disait, puis de mettre notre fille en priorité. Puis c'est ce qu'on a fait.
Je vous trouve extrêmement mature d'avoir réussi ça, parce que c'est facile à dire et c'est beaucoup moins facile à faire. Merci beaucoup, Caroline, puis félicitations.
J'avais dit la même chose, M. Bigrand, en fait.
Oui.
J'en entends là, des commentaires comme ça de parents, mais je voudrais... Très rarement, moi, je veux féliciter cette dame-là qui a une maturité émotionnelle, ou je ne connais pas le terme exact, là, mais d'être capable de vraiment, parce que c'est souvent ça le problème, les parents vont faire, de ce que je vois du moins, là, les parents vont faire passer leurs propres intérêts, ils vont être guidés par leurs propres émotions, plutôt que de focusser sur le bien-être de l'enfant. Alors, bravo à cette dame-là.
Oui, c'est assez extraordinaire. Si je
peux me permettre ensuite.
Oui, oui. Mais c'est parce que moi, je reste avec mon principe qui existe, à part abandonner un enfant, là, qui est ce que je trouve de plus atroce sur la planète. La deuxième chose, c'est de le forcer à choisir entre ses deux parents. Ça, c'est quelque chose.
C'est certain. Je voulais réagir aussi parce
drapeau.
Que
oui.
C'est José Leboeuf qui parle.
Oui, pardon.
Oui, non, je voulais juste ajouter une petite nuance. C'est que tous les couples en souffrance ou qui ont fait des demandes de séparation, de divorce actuellement, n'ont pas tous des enfants. Donc, je suis totalement d'accord avec le bien-être de l'enfant qui doit passer en premier, mais quand il n'y a pas d'enfant impliqué, là, on est face à deux personnes adultes qui ont des désirs différents, des besoins différents par rapport à est-ce qu'on reste dans cette relation-là ou est-ce qu'on la quitte. Il n'y a pas d'enfant impliqué là, dans l'exemple que j'apporte. Donc là, c'est une autre dynamique avec laquelle on doit travailler. Quand on les reçoit en thérapie de couple, ces couples-là qui n'ont pas d'enfant, donc c'est même pas un enjeu pour eux, là, faut faire de la place aux deux univers qui doivent coexister. Et en temps de difficulté, en temps de souffrance, c'est vraiment pas facile.
Non, tout est exacerbé.
Se donner cet espace-là, effectivement.
Je comprends. Je vous remercie toutes les deux d'avoir été là. Maître Annie Drapeau, qui est avocate en droit de la famille, et José Leboeuf, qui est psychothérapeute et sexologue. Le conseil que je dis à tout le monde, passez par la thérapie et peut-être la médiation, mais essayez de pas finir au bureau de Maître Drapeau. À demain. Bye.